Bonjour Yverdon, ça va? Voilà. Je suis tellement content de vous voir, heureux d'être là. C'est un privilège vraiment de pouvoir apporter la parole avec vous. Mais c'est vraiment une joie profonde dans mon cœur que nous arrivions à vivre ce que nous vivons ici. Peut-être vous ne mesurez pas ce que ça représente, mais ce n'est pas la norme. Ce que nous vivons à Yverdon, ce n'est pas la norme. Et je crois que nous sommes dans un temps où Dieu désire encore plus cela qu'avant. Non, il l'a toujours désiré. Mais je crois qu'on vient dans un temps où il est nécessaire que les chrétiens s'unissent. Toute confession, famille d'église confondue, on doit oublier un peu nos étiquettes et puis vivre l'unité. Et on le vit de mieux en mieux à Yverdon et je m'en réjouis. On apprend à se connaître, on apprend à s'aimer et on réalise combien on est riche lorsque nous sommes ensemble. Il y a cette parole où il est question de la prière, mais où il est dit que lorsqu'on s'accorde en son nom pour demander quelque chose au Père, alors il nous l'accorde. Et il y a cette notion d'accord, d'unité. Et moi, j'aime bien parce qu'un accord, le pianiste aurait pu le dire, un accord, c'est trois notes, hein, pour que ça, c'est trois notes différentes. Alors, on a des notes différentes, mais ensemble, il y a un son qui est bon pour le Seigneur. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous poser une question en introduction. Réfléchissez bien, hein. Attention. Pouvez-vous imaginer une journée sans lire la Bible? Franchement, réfléchissez bien, hein. Tout au fond de vous, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Une journée sans lire la Bible? Ouh, là, il y a un grand silence, hein. Bon, bien sûr, c'était pas si dur, hein. Bien sûr, on arrive tous à imaginer cela. Et oui. Alors aujourd'hui, je me suis fixé un objectif assez difficile. J'aimerais que nous repartions d'ici avec le désir d'ouvrir notre Bible plus souvent que ce que nous l'avons fait dans les 6 derniers mois. D'accord? Donc ça, c'est mon objectif. Là, je vois qu'il y en a qui rigolent. Ils disent « ça va bien, je ne l'ai pas ouvert dans ces 6 derniers mois. » Donc, ça va être tranquille pour moi. Hein, bah, tant mieux pour vous, pas de souci. On va tous progresser un petit peu, repartir là avec envie de lire la Bible. Alors, j'ai pris avec moi quelques objets, c'est un peu ma marque de fabrique, j'aime bien illustrer un petit peu. Alors, j'ai pris avec moi un coffre. Alors, on va l'ouvrir ensemble, regardez pas le code. Voilà. Alors, regardez ce qu'il y a dedans. Bien sûr. La Bible. Est-ce que vous avez l'habitude de ranger votre Bible dans un coffre-fort? Non? Franchement, ça m'étonne. C'est pas un coffre-fort à la maison, c'est pas cher à Jumbo, vous pouvez trouver ça. Bon, non, c'est vrai, notre Bible, souvent, eh ben, on la trimballe partout avec nous, même sur différents supports. Hein. Des fois, c'est plus qu'un iPhone, alors on prend des fois plus soin de l'iPhone que de la Bible. Mais pourquoi je l'ai mis dans un coffre? Parce que la Bible, en fait, est un trésor. C'est un incroyable trésor. Mais en fait, elle est tellement, on l'a tellement partout aujourd'hui qu'on ne réalise plus la valeur de la Bible. D'ailleurs, dans certaines cultures, si vous allez dans certains pays, rien que d'avoir une Bible comme la mienne qui est usée, qui est surlignée, puis s'ils vous voient faire ça, mais vous pouvez repartir. Parce que ça ne se fait pas. Culturellement, on doit respecter la parole. On ne peut pas comme ça la mettre par terre. Vous voyez comment on est différent. Donc oui, la Bible, c'est un trésor. C'est un trésor historique d'une part, et vous en mesurerez la portée en visitant l'Expo Bible. Ne manquez pas l'Expo Bible. Alors je ne vais pas faire un exposé sur la Bible aujourd'hui, ce matin, mais je veux juste mentionner que c'est juste extraordinaire, c'est miraculeux que nous ayons aujourd'hui cette parole. Et ça, il faut le saisir, il faut le comprendre. Quand on le comprend, on a envie de la lire. Mais elle a traversé les siècles. Elle est fiable à plus de 99%. C'est le livre le plus fiable, le livre historique le plus fiable. C'est extraordinaire. Écrit par 30 auteurs sur une période de 1500 ans. Enfin, vous savez ces choses. Mais ça doit être là dans notre cœur. Quand on a une Bible entre les mains, c'est un trésor. Alors, il est évident que Dieu a protégé sa parole. Il a protégé sa parole pour que nous puissions l'avoir encore aujourd'hui. Il faut aussi compter le travail qui a été fait pour donner accès à cette parole à travers les siècles. Et ça nous montre combien la parole est précieuse. Alors, elle ne devrait pas prendre la poussière sur notre table de chevet ou dans notre bibliothèque. Peut-être certains disent « Ah ouais, on avait reçu une Bible à notre mariage. Peut-être ce serait l'occasion de la sortir. Hein » Elle ne devrait pas prendre la poussière. Elle est extraordinaire, cette parole. C'est une parole, c'est un trésor de révélation. Dieu se révèle à travers sa parole. Je peux connaître Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui est créateur, celui qui est fidèle, celui qui est tout-puissant, amour, lent à la colère, riche en beauté. C'est tellement extraordinaire. Le Dieu qui s'est incarné en Jésus pour nous sauver, pour nous rejoindre, pour te rejoindre ce matin. Est-ce que vous pensez avec moi que Dieu parle? Oui, ah, ça va, on est déjà pas mal. Oui, il le fait de différentes manières, mais principalement par sa parole écrite. Je peux comprendre son cœur et sa volonté. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi, puis qui me disent « Ah, mais j'aimerais connaître la volonté de Dieu, ou bien je vis telle situation, puis tu en penses quoi ?» Mais la majorité du temps, la réponse est dans la Bible. Est-ce que vous avez ouvert la Bible? Je prends un deuxième objet ce matin. Je n'avais pas de lampe à huile. J'ai pris une lampe de chevet comme ça. Alors on l'a entendu dans le psaume 119. Les 175 versets sur 176 parlent de la parole dans ce psaume. Parle des commandements, parle des préceptes, des prescriptions, des promesses de Dieu. Et on a lu que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole, elle nous guide. La parole, elle nous éclaire. Savez-vous toujours où aller dans ce monde? Savez-vous toujours où aller? N'avez-vous jamais traversé des vallées sombres, des moments de doute, d'incertitude, de tristesse? La parole nous ramène à l'essentiel. Elle éclaire notre chemin. Alors c'est vrai que des fois, on aimerait bien que ce soit le gros spot, hein, aussi le spot de chantier là, qui éclaire hyper loin, qu'on sache un peu faire notre plan à 10 ans. Hein, ça, on aimerait bien avoir un peu une perspective. Mais ce n'est pas comme ça. C'est une petite lumière qui éclaire le pas suivant. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous sommes dans la dépendance à Dieu et à ses promesses. Mais cependant, par sa parole, Dieu est présent dans notre quotidien. Il est présent et il répond à nos questions qui sont parfois très pratiques, mais la Bible est très pratique. Alors en ce sens, c'est mon troisième objet, j'ai pris un couteau suisse. Voilà, la Bible, c'est le couteau suisse du chrétien. Toujours sur homme, toujours en poche, hyper important. Hein. Mais oui, c'est un manuel de vie qui est utile en toutes circonstances. J'ai lu un livre intitulé « Secrets de l'intimité avec Dieu », un bon livre que je recommande. Et puis dans ce livre, il y a l'histoire d'un couple qui était dépassé par un défi financier énorme. Alors, ils ont eu la bonne idée de prendre un temps de prière. Puis ils ont exposé la situation au Seigneur dans leur salon. Puis d'un coup, ils entendent audiblement « Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911 ». Alors le 911, c'est le numéro des urgences aux États-Unis, c'est un livre traduit. Voilà. Et puis, c'est extraordinaire quand même. On prie, on entend audiblement quelque chose. Alors ils s'arrêtent un petit peu, puis ils entendent de nouveau « Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911 ». Puis là, ils ont l'impression que la voix vient du garage, alors ils se dirigent vers le garage, ils ouvrent, et puis là, hop, comme tous les parents, ils s'en coupent sur l'ambulance de leur enfant, avec les gyrophares, vous savez, on appuie dessus. Si tu as besoin d'aide, appelle le 911. Voilà. Et puis là, ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Et ils ont ouvert la parole au psaume 91:1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puis là, ils ont compris que par cet incident, hein, généralement, on n'aime pas les parents, on s'en couplait sur les jouets de nos enfants, et ben, ils ont compris que Dieu les dirigeait leur cœur à un engagement de confiance, renouvelé en restant à l'ombre du Tout-Puissant. Avez-vous vécu ce genre d'expérience? Alléluia! Est-ce que ça vous fait envie? La parole présente dans nos vies au quotidien. Des fois, dans ma journée, je lui dis, mais Seigneur, je fais quoi là? Et puis là, un verset biblique me vient. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Puis, ok, je me calme, j'arrête de m'exciter, ça va. Hein, des petites choses comme ça, je lui dis, peux-tu m'aider maintenant, s'il te plaît? Puis je lève les yeux, puis cette parole, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Puis je me calme aussi parce que je regarde à lui. Lorsque je prie pour les gens, combien de fois un verset biblique vient dans mon cœur? Une référence biblique? Ça, c'est un peu flippant. Vous avez une référence biblique, vous pensez une référence biblique, vous dites, qu'est-ce qu'on va y trouver? Et puis, c'est extraordinaire de voir que cette parole parle au cœur. Dieu parle encore aujourd'hui. Permettez-moi de venir au second texte qu'Aurore nous a lu. Texte qui se trouve dans donc, la deuxième épître de Timothée au chapitre 3. Il me reste peu de temps, mais j'aimerais relever les points essentiels qui se dégagent de ce texte. On considère généralement que cette seconde épître à Timothée, c'est le testament de l'apôtre Paul, dans lequel il donne de nombreux conseils et encouragements à Timothée, jeune ministère, que l'apôtre appelle volontiers son fils dans la foi. Alors le contexte est difficile, il y a sans cesse de nouvelles philosophies qui essayent de percer au sein de l'Église, de nombreuses personnes qui, de l'intérieur, enseignent des fausses doctrines, enfin rien de tellement différent aujourd'hui, quoi. Et Paul encourage Timothée à tenir ferme dans ce qu'il a appris. Et il va lui dire premièrement que les Écritures communiquent la sagesse. Les Écritures communiquent la sagesse. C'est ce que nous avons aussi vu dans ce psaume 119, hein, au verset 98. « Les commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » Au verset 99, « Je suis plus avisé, plus instruit que mes maîtres. » Au verset 100, « J'ai plus d'intelligence, j'ai plus de discernement que les vieillards. » C'est pas mal, hein? Alors, ne vous y méprenez pas. La lecture seule ne changera rien ou pas grand-chose. Mais la mise en pratique de la parole, l'obéissance à la parole, elle nous rend différents des autres. Elle nous rend plus sages. Elle nous rend plus justes, avec plus de discernement. Et je le crois aussi profondément, elle nous rend plus heureux. Ô combien j'aime ta parole. Et il affirme deuxièmement que l'Écriture dans son entier a été formée par Dieu, par son souffle créateur. C'est le terme théopneustos, on ne va pas trop faire de grec, hein, mais théo Dieu, pneuma, esprit, souffle. Donc c'est plus qu'une inspiration divine. C'est vraiment le souffle puissant qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est un point de doctrine essentiel. Et comme tous les points de doctrine, c'est aussi un point très discuté. Mais oui, Dieu a parlé au travers d'hommes et avec leur langage, dans leur contexte. On peut l'exprimer ainsi, la Bible est la parole de Dieu dans la parole des hommes. Et on peut lire aussi dans 1 Pierre 1,21, c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors n'avez-vous pas envie de saisir ce souffle de Dieu, le souffle de Dieu présent dans cette parole? Et puis il dit ensuite que l'Écriture enseigne. Alors elle nous enseigne sur Dieu. Elle nous enseigne sur notre nature humaine, sur nos relations, sur la gestion de nos biens, sur tellement de sujets. La parole nous enseigne, elle est pratique. Et puis il dit ensuite qu'elle réfute, on pourrait dire qu'elle convainc. Alors la première chose qu'on a besoin des fois d'être convaincu, parfois, hein, c'est d'être convaincu de notre péché, de notre besoin de Jésus, notre besoin de changement. Mais elle nous convainc aussi de l'amour de Dieu. C'est des fois tellement difficile de croire que Dieu nous aime, malgré tout, malgré qui je suis. Elle nous convainc de la véracité des promesses contenues dans sa parole. Et puis il dit ensuite qu'elle redresse, qu'elle corrige. Alors elle corrige nos comportements, nos manières de penser, de concevoir. Des fois c'est tellement difficile de penser autrement. Elle redresse nos pas pour éviter les pièges, les dangers. Et puis elle nous éduque, elle nous instruit dans la justice. Elle nous montre la valeur des gens. Elle nous apprend à traiter chacun avec dignité. Elle nous appelle à être des ouvriers de paix, à faire don de nous-mêmes, à partager. Je crois que là, nous avons déjà quelques arguments pour ouvrir la Bible. Mais Paul termine avec ce verset clé. Le but est le suivant, verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. » La parole est agissante. Et cette parole, elle nous sanctifie. Elle nous équipe pour toute œuvre bonne. Autrement dit, pour accomplir la volonté de Dieu, ici et maintenant. Donc cette parole, elle a une vocation pratique, les amis. La parole de Dieu ne nous laisse pas statiques, elle nous pousse en avant, elle nous met en action. Et peut-être faut-il le rappeler, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église aujourd'hui. Et c'est la parole de Dieu qui nous équipe pour être l'Église dans le monde, pour être sel et lumière. Est-ce que cette parole vit en moi? Est-ce qu'elle m'habite? Quel rôle elle a dans mon quotidien, dans ma vie intérieure, dans mon agir, dans mes relations, qu'elles soient familiales, professionnelles? pouvons-nous reconnaître ce matin ensemble que nous avons besoin de cette parole qui nous équipe? Amen. Il y en a quelques-uns qui lèvent la main. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de cette parole qui nous équipe. Je termine avec deux courtes citations. L'un des pères de l'Église, Jean Chrysostome, qui disait « L'Évangile était une conversation avec Dieu. » Alors, entrons en conversation avec Dieu. L'Évangile est une conversation avec Dieu. J'aime bien ça. Et puis, j'ose tout de même citer Calvin, qui a dit quelque chose de pas trop mal. Hein. La parole de Dieu n'a pas été donnée pour nous apprendre à babiller, pour nous rendre éloquents ou subtils, mais pour réformer nos vies. La parole de Dieu a été donnée pour réformer nos villes, nos vies. La parole mise en œuvre nous transforme. Amen. Alors avant de proposer un court temps de partage, j'aimerais simplement vous inviter à la prière. On a besoin de cette parole qui va faire une différence dans nos vies. Père, merci pour ta parole, merci pour le cadeau, le trésor de ta parole. Seigneur, on a de la peine aujourd'hui, en 2022, à réaliser le chemin parcouru, à réaliser encore l'œuvre que tu as accomplie pour que nous puissions avoir entre nos mains 10 Bibles. On les a en plein de versions différentes. Mais Seigneur, quel cadeau, quel cadeau. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint soit agissant ce matin, qu'il nous donne le désir, l'envie, la force peut-être même, d'ouvrir cette parole qui est vivifiante, cette parole qui nous sanctifie, cette parole qui nous équipe. Seigneur, si nous sommes rassemblés ici, je suis convaincu c'est qu'on a envie ensemble d'être celle et lumière, de faire une différence pour cette ville d'Yverdon. Nous sommes l'église d'Yverdon. Père, on a besoin d'être équipés par ta parole. Viens toucher nos cœurs, viens nous remplir par ce cadeau précieux de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen.